Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris et Brazzaville, 10h30 à Nairobi. L'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Et nous serons à Kinshasa dans un instant, la capitale congolaise où les assises de la justice sont en train de toucher à leur fin. Hier, certains magistrats congolais ont estimé que ces rencontres passaient à côté de leur objectif. Dans ce journal également, la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan et pas moins d'une quinzaine de dirigeants africains qui ont fait valoir leur point de vue hier. Par exemple, vous les entendrez, les présidents du Togo et du Congo-Brazzaville. Le Somaliland, jour de vote, élection présidentielle ce mercredi dans ce territoire indépendant de la Somalie depuis 1991 et en quête depuis de reconnaissance internationale. Et puis l'île Maurice, où certains s'interrogent après les résultats des élections législatives de dimanche et le carton plein de l'opposition qui désormais dispose de la totalité des sièges à l'Assemblée nationale. Des magistrats donnent donc de la voix et laissent entendre leur mécontentement en République démocratique du Congo, alors que les assises de la justice sont en train de toucher à leur fin à Kinshasa. L'organisation de ces assises ne plaît pas à tout le monde à Kinshasa. Pascal Moulégois.
Théâtralisation, voilà les termes employés par les syndicats pour dénoncer ce qu'ils qualifient des irrégularités. D'abord, dans l'organisation, le Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir judiciaire, a été exclu des préparatifs et de l'organisation des états généraux. Conséquence, l'intersyndical de la magistrature affirme que les participants ont été triés sur le volet. Pour Henri Dianda, secrétaire général de l'intersyndical du secteur, c'est une évidence.
La manière dont les participants ont été sélectionnés pose problème. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Ils sont recrutés parmi les partisans des partis politiques. Quelle est la qualité de ces personnes qui viennent poser un diagnostic pour que la justice de notre pays puisse fonctionner comme il se doit? Les orateurs, ceux qui sont venus pratiquement exposer, mais également les thèmes qui ont été abordés. Nous sentons que ça a été sélectionné comme ça et orienté. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de verrous qu'on veut faire sauter, qui vient toucher à l'indépendance de la magistrature de notre pays.
Les syndicats dénoncent aussi les fonctionnements occultes du secrétariat des états généraux, dont les membres ne sont pas connus des participants. Les assises devraient être clôturées aujourd'hui, mais elles ont été prolongées afin de permettre des débats en atelier et la mise en commun des recommandations. Un exercice similaire avait eu lieu en 2015, mais selon les syndicats et les autorités, moins d'un 1% des 350 recommandations de réforme avaient été mises en œuvre. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
La RDC, dont le représentant en ce moment à Bakou, en Azerbaïdjan, doit prendre la parole aujourd'hui à la tribune de la COP29, la grande conférence des Nations Unies sur le climat, alors que les pays africains dans leur ensemble espèrent tirer de ces deux semaines de négociations une augmentation substantielle du financement de leur transition écologique et de leur adaptation au changement climatique. Plusieurs présidents du continent l'ont répété une nouvelle fois hier. Jeanne Richard.
Une quinzaine de dirigeants africains a pris la parole ce mardi. L'occasion de rappeler les terribles catastrophes qui ont récemment frappé le continent. Sécheresse, vagues de chaleur, inondations ou cyclones. Et les pays riches, responsables historiques du changement climatique, se sont engagés à aider les plus vulnérables à faire face, a rappelé Fornia Singbe, le président du Togo.
L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré.
Or, l'argent promis a tardé à être rassemblé et Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, appelle désormais à une aide bien plus conséquente.
Les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes. De nouveaux objectifs pour le financement climatique devront s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars.
Ce mercredi, les représentants du Gabon, de la RDC ou encore du Kenya doivent à leur tour s'exprimer. En parallèle, les négociations ont déjà débuté.
Jeanne Richard, en Centrafrique, la parole était hier aux avocats de la défense au procès de Ndélé 2 à Bangui, la cour pénale spéciale. Juge en ce moment 4 membres du groupe armé FPRC. Ils sont jugés pour leur rôle présumé dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Ndélé, qui est une commune de l'est de la Centrafrique, en avril et en mars 2020. Ils sont notamment accusés d'avoir pris part à l'assassinat de plusieurs plusieurs dizaines de civils. Et hier, leurs avocats ont demandé qu'ils soient relaxés. Reportage de Rolf-Steve Domierleux.
Dans des combinaisons orange, entourés de leurs avocats, les accusés Khalid Azor, Sharfadin Moussa, Ontar Ahmad et Oscar Wurdjono Drogba se sont montrés sereins au moment de la plaidoirie. En prenant la parole, Maître Marius Bagati, l'un des avocats de la défense, souligne que le parquet et l'accusation n'ont pas apporté des preuves convaincantes.
Le procureur spécial a seulement soulevé deux éléments de preuve, notamment les témoignages et deuxièmement son téléphone qui est borné. Et là, nous avons scruté dans les pièces du dossier, nous avons vu effectivement que les témoins sur lesquels le parquet spécial se fonde ne sont pas crédibles. Les conséquences, c'est l'acquittement.
En se basant sur le dossier de Sharfadin Moussa, l'un des accusés, Maître Fleury Otto a relevé quelques incohérences qui, selon lui, caractérisent ce procès.
Au point même de l'élément légal de l'infraction, il y a des problèmes. 1. Il n'était pas sur les lieux. 2. Il a été arrêté 20 jours plus tard. Un rapport d'expertise a été diligenté à la demande du cabinet d'instruction. Un travail a été fait en laboratoire et il est démontré scientifiquement que ce brassard ne lui appartient pas. Monsieur Moussa Sharfadin mérite acquittement.
Jeudi dernier, lors de son réquisitoire, le parquet spécial avait requis des peines allant de 20 à 30 ans de prison contre les accusés. Alors que les débats sont clôturés, l'affaire sera mise en délibéré ce 14 novembre. Rolf-Steve Domierleux, Bangui, RFI.
RFI Bangui, où il est maintenant 8h36, même heure à N'Djamena, au Tchad, où les élections législatives se profilent dans un mois et demi. Hier, on a appris que plusieurs candidats du MPS, le parti qui soutient le chef de l'État, ont vu leur dossier de candidature recalé. La raison, des condamnations par le passé à de la prison ferme, notamment pour des détournements de fonds publics. Parmi eux se trouve le secrétaire général du parti. Notez tout de même que cette décision est susceptible de recours. La campagne électorale au Sénégal. Là, c'est ce dimanche que les Sénégalais choisiront leurs députés. Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a préféré faire machine arrière dans la soirée. Il a finalement appelé au calme après avoir incité ses partisans à, je cite, se venger de violences commises selon lui par des opposants. N'attaquer personne, ne frapper personne, ne provoquer personne, a donc fini par dire Ousmane Sonko. Au Somaliland, on vote aujourd'hui. Le Somaliland, c'est ce territoire du nord de la Somalie qui a décrété son indépendance de manière unilatérale en 1991 et qui depuis cherche une reconnaissance internationale. Jour d'élection présidentielle, l'un des arguments du Somaliland en faveur de la reconnaissance internationale, c'est la bonne santé de sa démocratie. C'est la quatrième élection présidentielle au Somaliland. Mais cette fois, la campagne a été marquée par des violences et le scrutin a même dû être reporté de 2 ans. Florence Maurice.
Le sortant Musbehi n'est pas en position de force. Son bilan est controversé. Il a reporté l'élection de 2 ans. Il a réprimé dans le sang les manifestations qui en ont découlé. Et son pays est déchiré depuis 2023 par un conflit sécessionniste. Son armée a même dû se retirer de la province de Sol dans le sud-est au profit d'une rébellion armée qui réclame son rattachement à la Somalie. Pour principal argument de campagne, Musbehi avance un protocole d'accord annoncé en début d'année avec l'Éthiopie. Ce dernier prévoit d'octroyer à Addis Abeba un accès à la mer en échange de la reconnaissance du Somaliland. Mais cet accord a mis le feu aux poudres dans la région et semble rester lettre morte depuis. En face, 2 candidats, Faisal Ali Warabe du Parti de la Justice Sociale et surtout Abdirahman Hiro du Parti Wadani, l'opposant historique. Lui a fait campagne sur la promesse de maintenir l'unité du Somaliland, accusant le président sortant d'avoir attisé les divisions claniques. Dimanche, il a reçu un soutien de poids, celui du vice-président sortant. Il a aussi une revanche à prendre. En 2017, il avait contesté sa défaite pendant une semaine avant de la concéder sans reconnaître les résultats, mais avait-il dit à l'époque pour maintenir l'unité et la paix du Somaliland.
Unité et paix du pays qui est mise à mal en ce moment au Mozambique après l'élection présidentielle le mois dernier et l'annonce de la victoire du candidat du parti au pouvoir. Ce mercredi est le premier de 3 jours de manifestation à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane qui estime être le vrai vainqueur de l'élection alors qu'au moins une trentaine de personnes ont été tuées dans la répression des précédents rassemblements de l'opposition. Pas de manifestation, sauf peut-être des manifestations de joie sur l'île Maurice, mais tout de même quelques questions. Après les législatives de dimanche, Navin Ramgoolam fait son retour au poste de Premier ministre et sa coalition remporte la totalité des sièges du Parlement. Une situation qui n'est pas inédite, mais qui interroge. À Port-Louis, Abdoulaye Rally.
Cette victoire absolue n'est pas une première à Maurice, mais le débat qu'elle suscite est inédit, amplifié par des médias en ligne et les radios privées. Pour Yvan Martial, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Express, ce 60-0 équivaut à un chèque en blanc donné par la population à son gouvernement. Pour sa part, le parti Ligno Maurice y voit une démocratie privée de contre-pouvoir. Plusieurs voix réclament du coup une réforme du système électoral, jugeant que le mode actuel ne reflète pas fidèlement les votes des Mauriciens. Cependant, pour la nouvelle majorité, cette situation offre l'opportunité d'amender la Constitution qui nécessite une majorité de 3/4. Le nouveau gouvernement s'était engagé pendant sa campagne électorale à rendre également constitutionnelles les élections municipales et villageoises tous les 5 ans. Pour rappel, la première majorité absolue de 1982 avait déjà utilisé son 60-0 pour instituer la tenue régulière des élections législatives tous les 5 ans à Maurice. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, l'Union européenne qui ne renouvelle pas son accord de pêche avec le Sénégal. Bruxelles met en avant des défaillances dans la lutte contre la pêche illégale, une mesure qui a pour conséquence immédiate que dès ce dimanche, les bateaux européens, en l'occurrence espagnols et français, eh bien ces bateaux ne pourront plus pêcher au large du Sénégal. L'UE qui a versé à Dakar 10 milliards de francs CFA depuis 2019 dans le cadre de cet accord de pêche. Et puis le Niger, le ministère de l'Intérieur ne donne pas d'explication, mais les militaires au pouvoir à Niamey ont retiré hier leur autorisation d'exercer à 2 ONG, la nigérienne Action pour le Bien-être et la française Acted, qui est présente au Niger depuis 2010, notamment pour fournir une réponse d'urgence pour les personnes déplacées fuyant les violences. À Niamey, au Niger, il est maintenant 8h42 et vous êtes avec André-Anne Mellard pour la suite des RFI Matins.